ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 26 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleaux, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau midi à Ça vaut le détour. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD et sur Twitter avec @canal_m. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. À noter que cette semaine, notre segment En route vers Rio sur la fièvre des Jeux paralympiques d'été qui auront lieu en septembre 2016 à Rio de Janeiro se fera dans l'émission C'est bon pour la santé, animée par Marianne Paquette. Elle recevra aujourd'hui l'athlète plusieurs fois médaillée et sénatrice Chantal Petitclerc, aussi chef de mission du Canada pour les Jeux de Rio, ainsi que la jeune athlète de paracyclisme Marie-Claude Molnar. Ce sera sur nos ondes de Canal M à 14h. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Martin Asselin, cofondateur de la compagnie Spectacle Interface, qui présente des spectacles d'humour ou des pièces de théâtre accessibles à la communauté sourde. On parlera de leur prochaine production, la pièce Maudite Job, avec François Chénier et Mathieu Graton, qui sera présentée en juin prochain. Il sera dans nos studios à 12h45. C'est aussi la chronique mensuelle de la Fédération québécoise de l'autisme et on parlera du programme Prêt, disponible et capable. Seule une personne sur quatre ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme possède un emploi rémunéré. Une réalité que l'Association canadienne pour l'intégration communautaire et l'Alliance canadienne des troubles du spectre de autistique s'engagent à changer. On en parle avec Emmanuelle Ladouceur, coordonnatrice provinciale du programme Volet Autisme. On découvre aussi le Power Chair Soccer, un sport dérivé du soccer et adapté pour les personnes en fauteuil roulant motorisé. C'est un sport d'ailleurs à l'honneur au défi sportif Altergo qui a débuté lundi et qui se poursuit jusqu'au 1er mai. On en parle avec Mme Sarah Limoges, agente de développement chez Junisport. Mais tout d'abord, on se tourne vers le service juridique de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, qui a un rôle conseil général auprès de l'Office, un rôle de soutien-conseil auprès des agents d'aide et de conseiller personnalisé auprès des personnes handicapées. On se penche sur les accommodements raisonnables pour les personnes en situation de handicap dans un contexte de copropriété avec Maître Christian Roux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, vous-même.
Oui, merci. Tout d'abord, avant d'entrer plus spécifiquement dans cet aspect juridique, qu'est-ce qu'on entend par copropriété?
Bien, les copropriétés, ce sont des appartements, des parties divises que plusieurs propriétaires occupent, acquièrent dans un même complexe immobilier où il y a plusieurs unités d'habitation.
Donc, ça peut être à la fois des condos comme des coops d'habitation.
Dans la mesure où les personnes sont propriétaires de leur unité de logement, on parle de condos. Quand on parle de... Souvent, les coops d'habitation, c'est à location, c'est des logements, c'est loué. Donc, c'est des unités d'habitation à des fins de location.
Mm-hmm. Et quel est le cadre juridique sur lequel s'appuie la question des accommodements pour les personnes en situation de handicap?
On parle toujours dans un contexte de condo. De condominium?
D'un contexte de copropriété, exactement.
De copropriété. Bien, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Évidemment, il y a le Code civil qui prévoit les documents de copropriété, les droits et obligations du syndicat et des copropriétaires entre eux. Ce qui est important de savoir quand on parle d'accommodement, c'est que ces règles-là qui sont prévues au Code civil doivent être interprétées et mises en application conformément à la Charte des droits et libertés. Et d'ailleurs, le Code civil est très clair à cet effet. Dans sa disposition préliminaire, on y lit clairement que le Code civil régit en harmonie avec la Charte des droits et libertés les rapports entre les personnes.
Mm-hmm.
Et après ça, évidemment, il faut tenir compte évidemment de la Charte des droits et libertés de la personne qui consacre, comme vous le savez, le droit à l'égalité sans discrimination, qui fait en sorte de prévoir, dans le fond, qu'une personne handicapée doit avoir le même accès au même titre que les personnes qui ne sont pas handicapées à leur lieu d'habitation, qu'il s'agisse d'un condominium ou d'un logement locatif, et ce, en vertu des articles 10, 12 et 13 de la Charte, sans oublier évidemment l'article 4 qui protège le droit à la sauvegarde de la dignité et l'article 49 qui prévoit un recours en cas de contravention à ces manquements, à ces obligations, à ces droits et obligations-là.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des documents spécifiques de copropriété, par exemple des relations juridiques entre les parties? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus spécifique? Parce que, bon, la Charte des droits et libertés, justement, prévaut sous tout type d'habitation, tout type de logement, mais spécifiquement lorsqu'il vient le temps d'acheter un condo ou parfois si on est déjà en situation de handicap ou bien si on devient handicapé lorsqu'on habite déjà, est-ce qu'il y a des formules juridiques qui entrent en ligne de compte?
Oui, il y en a plusieurs, c'est que c'est du cas par cas évidemment, mais quand on parle de condo, de condominium, d'appartement condominium, on parle de déclaration de copropriété, d'acte constitutif comme je disais tout à l'heure, de règlement de copropriété où on décrit les parties privatives et les parties communes, les devoirs du syndicat, c'est une forme de convention entre les copropriétaires, il y a différentes réglementations. Et lorsqu'une personne veut acquérir, se porter acquéreur par exemple d'un unité de condominium, elle doit faire une offre d'achat. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'ai eu un des premiers cas que j'ai eu quand je suis arrivé ici à l'office il y a plusieurs années. Mm-hmm. Ça a été le cas d'une jeune professionnelle qui avait fait une offre d'achat pour un condo qui avait été accepté par le propriétaire du moment du condominium en question. Et en vertu des règlements et des documents de copropriété, l'offre d'achat devait être soumise à l'Assemblée des copropriétaires pour approbation. Et la personne qui avait fait l'offre était une personne handicapée en fauteuil roulant et elle avait mentionné une demande en même temps que l'offre d'achat, une demande pour que qu'il y ait l'installation d'ouvre-porte automatique à l'entrée commune. Mm-hmm. L'ouvre-porte automatique allait être subventionnée par la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme PAD, le programme d'adaptation à domicile.
Tout à fait.
Et donc, il n'y avait aucune charge pour les copropriétaires. Mm-hmm. Et malgré tout cela, à notre grande surprise, l'offre d'achat avait été refusée par l'Assemblée des copropriétaires qui ont pris un vote là-dessus. Et évidemment, on a dû argumenter et expliquer à ces gens-là les droits et les obligations, expliquer qu'il y avait un devoir d'accommodement raisonnable à l'endroit de la personne qui voulait se porter acquéreur de l'unité de condo. On invoquait du côté de l'Assemblée des copropriétaires une augmentation des coûts d'assurance. On invoquait le fait d'une mauvaise expérience antérieure. Et la Commission des droits de la personne a été saisie du dossier après que nous en avons été saisis et a conclu qu'il y avait discrimination et a demandé au syndicat de copropriété d'adopter une réglementation pour permettre une intégration harmonieuse des personnes handicapées dans leur unité de condo et leur a demandé de verser une somme importante à titre de dommages et intérêts. Mm-hmm. Donc, c'est du cas par cas, mais il faut toujours regarder tous les documents de copropriété, mais ces documents-là doivent, comme je disais tout à l'heure, être mis en application et interprétés conformément à la Charte. J'ai eu un argument à un moment donné avec une avocate qui représentait des copropriétaires et qui soutenait que à partir du moment où l'Assemblée des copropriétaires respecte les dispositions du Code civil quant aux les modalités de vote des décisions et tout, la procédure, que l'Assemblée des copropriétaires, toute décision qu'ils prenaient était souveraine et qu'on ne pouvait pas leur remettre la décision en question. Je m'étais inscrit en faux contre une telle affirmation juridique en expliquant que c'était les décisions devaient être prises, mais en conformité avec la Charte des droits et libertés.
Tout à fait.
Ce qui veut dire, par exemple, si vous me permettez un petit exemple, ce qui veut dire que même si l'Assemblée des copropriétaires se réunissait en se respectant toutes les modalités prévues au règlement et à l'acte constitutif et qu'ils prenaient une résolution ou une décision d'amender le règlement pour prévoir, par exemple, que adopter un règlement anti-animaux qui interdirait d'avoir un animal qui permet de pallier un handicap, bien, ce serait contraire aux articles 10 et 13 de la Charte, par exemple.
Justement, parce que ce sont des cas qu'on a vus émerger dans les médias dans les dernières années. Entre autres, un homme qui avait besoin d'un chien d'assistance, justement, qui développait une surdité, et le chien pouvait l'aider, et que ça causait, des frictions avec les autres propriétaires des condos dans l'habitation où il était, parce que, justement, il était devenu handicapé, donc après avoir acheté son condo. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là?
Bien, je pense que je sais à quel cas vous référez, mais il y en a eu quand même plusieurs
autres. Mais il y en a eu plusieurs, oui, effectivement.
En jurisprudence, je peux vous dire ça. J'ai été témoin de plusieurs autres cas en jurisprudence. Les motifs qu'on invoque, premièrement, celui qui est propriétaire, là, tantôt je parlais de quelqu'un qui voulait se porter acquéreur d'un condo, mais la personne qui est déjà propriétaire, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la charte doit avoir préséance, c'est une ordre publique et tout ça. Et si le règlement prévoyait l'interdiction d'avoir des animaux, maintenant, dans son unité de condo et dans les espaces communs, même si la personne qui est devenue avec un problème de surdité par la suite, ou en tout cas handicapée par la suite, après une fois qu'il demeure dans son condo, même s'il y avait, tu sais, en se portant acquéreur, en étant propriétaire du condo, les gens acceptent la réglementation, mm-hmm. Bien, étant donné que c'est d'ordre public, si la personne devient handicapée par la suite, cette clause-là, par exemple, anti-animaux, ne lui serait pas opposable parce que la charte a préséance. Donc, à partir de ce moment-là, les motifs qui sont souvent invoqués quand on parle de présence de chiens, qu'on parle en unité d'habitation, qu'on parle en scolaire, en loisirs, je l'ai vu en différents domaines, même en emploi, cas de jurisprudence assez important qui a été rendu récemment, on invoque souvent les allergies, on invoque la malpropreté, la crainte, les aboiements et des choses comme ça. Et tous ces motifs-là, en tout cas avec la jurisprudence que moi j'ai pris connaissance, ça a été rejeté. Mais c'est sûr que c'est du cas par cas et il y a une plainte pour discrimination. Puis à ce moment-là, ben si ça se rend devant le tribunal, si on ne réussit pas avec la médiation et des pourparlers, et si ça doit se rendre devant le tribunal, ben à ce moment-là, le tribunal va examiner la situation cas par cas, va regarder si, par exemple, en scolaire, c'est arrivé où un enfant avait eu une forte réaction allergique dans une classe, et ça a été devant le tribunal. Il y a eu un médecin qui est venu témoigner, un médecin allergiste, et il a donné un témoignage à l'effet que les allergies et les réactions étaient beaucoup moins alarmantes que ce que la commission scolaire voulait prétendre pour interdire la présence du chien. Mm-hmm. Et le tribunal a ordonné la réintégration de l'animal qui avait été expulsé, là, que la commission scolaire. Mais en matière de condo, ben, c'est la même chose. Si jamais ça aboutit devant un tribunal, le tribunal des droits de la personne, notamment, bien, la preuve va être examinée. Puis souvent, les tribunaux vont arriver à la conclusion que les droits de la personne, une personne est indissociable de son chien. Ça, les tribunaux l'ont dit à plusieurs reprises. Mm-hmm. On ne peut pas séparer une personne de son chien qui sert à pallier son handicap. Ça, ça a été dit régulièrement et c'est accepté dans le milieu juridique. Donc,
c'est ce qui a préséance, en fait, justement, oui. Toujours en accord avec ces articles de la Charte des droits et libertés par rapport à même tout autre type de documents juridiques. On aborde depuis le début de l'entrevue cette question d'accommodement raisonnable. Il y a cette obligation d'accommodement raisonnable, mais il y a aussi la question de la contrainte excessive. Qu'est-ce qui peut être considéré comme une contrainte excessive?
La contrainte excessive, on parle souvent de la question des coûts. Hein. C'est souvent un prétexte qui nous est servi en disant « ça me constitue une contrainte excessive, les coûts par rapport à la capacité de payer sont trop élevés ». Et c'est tellement souvent évoqué que la Cour suprême a cru bon de faire une importante mise en garde sur la question des coûts. Et si vous permettez, je peux peut-être vous en faire état. Je vais juste repérer la l'appellation de la Cour suprême, on dit, si vous permettez, bien que dans certaines circonstances, le coût excessif peut justifier le refus de composer avec les personnes atteintes de déficience, il faut se garder de ne pas accorder suffisamment d'importance à l'accommodement de la personne handicapée. Il est que beaucoup trop facile d'invoquer l'augmentation des coûts pour justifier un refus d'accorder un traitement égal aux personnes handicapées. Mm-hmm. Je me sers souvent de cet extrait-là quand on m'invoque les coûts. Mais il y a aussi d'autres motifs qui sont parfois évoqués, comme on regarde l'adaptation des lieux et des installations existantes. Est-ce qu'il y a, on regarde aussi la question des subventions disponibles. Mm-hmm. On parle de toutes sortes, on invoque certains critères, mais ce qui est important de noter, c'est que quand il y a une obligation, quand il y a discrimination, ça fait naître une obligation d'accommodement. L'obligation d'accommodement impose aux syndicats de copropriété, dans ce cas-ci, on parle de condos, de rechercher activement toutes les solutions possibles pour adapter et permettre à la personne handicapée d'avoir accès au même titre que les autres copropriétaires à son unité ou aux parties communes et privatives. Et ce qui est important de noter, c'est que le fardeau de démontrer la présence d'une contrainte excessive ne repose pas sur la personne handicapée, mais bien sur le syndicat de copropriété. C'est sur lui que revient le fardeau de démontrer qu'il y a une contrainte excessive, et ça, mm-hmm. c'est pas un fardeau facile à démontrer. En jurisprudence, au cours des dernières années, les tribunaux sont de plus en plus exigeants, avec raison d'ailleurs, sur la démonstration de la présence d'une contrainte excessive. Il suffit pas d'affirmer qu'il n'y a pas de solution, il faut en faire la démonstration qu'on a vraiment regardé toutes les solutions possibles. Il y a quand même plusieurs exemples en jurisprudence.
Exactement. Donc, les deux parties doivent montrer chacune une volonté d'accommodement et de la flexibilité.
Oui, effectivement. Ça, c'est les tribunaux l'ont dit à plusieurs reprises. J'ai vu employer les termes par les juges. Il faut qu'il y ait de la bonne foi, de la souplesse, du gros bon sens. Ça a été dit comme ça dans mm-hmm. les jugements que j'ai lus. Il faut faire preuve de diligence. Et les tribunaux ont souligné que le but de la charte, c'est d'amener les citoyens à plus d'ouverture sur les différences afin d'éviter toute forme de discrimination. Mais effectivement, on exige de tous, hein, de la personne qui habite un condo qui demande un accommodement et du syndicat et des autres copropriétaires de faire preuve de flexibilité puis de compréhension, là, c'est sûr.
Est-ce qu'il reste, Maître Roux, est-ce qu'il reste encore beaucoup de sensibilisation, d'éducation à faire dans le public pour comprendre ces enjeux-là?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il faut que le public accepte les gens qui vivent autour d'eux, qui ont des différences et des incapacités. Et ça, il y a encore du travail à faire, parce qu'il y a encore des plaintes, beaucoup, à la Commission des droits de la personne pour discrimination sur la base du handicap ou du moyen de panier de handicap. Je regardais un jugement encore tout récemment. C'est une personne, rapidement, qui se présente pour aller faire du camping, sur un terrain de camping. Il y a un chien Mira, mm-hmm. et la gérante du terrain de camping, à l'entrée, lui dit « Les animaux sont interdits ici d'un ton assez direct ». Et il essaie d'expliquer, de montrer la carte de Mira qui aurait expliqué pourquoi le chien est là et tout ça, le rôle de l'animal, et la personne ne veut entendre aucune explication. Et je peux vous dire que le tribunal a sanctionné le comportement du camping en question, de la compagnie qui avait le terrain de camping et de la gérante, en disant que vous avez fait preuve de discrimination. C'est le plus bel exemple que j'ai vu de non-ouverture d'esprit à l'endroit d'une personne qui est aux prises avec des incapacités. Là. Donc, effectivement, il demeure encore beaucoup de sensibilisation. Il faut qu'il y ait encore beaucoup de sensibilisation à faire.
Mm-hmm. Merci, en tout cas, d'accepter nos invitations et à en parler davantage. Ça nous aide à mieux comprendre ces contextes dans lesquels les droits ne sont pas toujours respectés et aussi de comprendre ce à quoi on a droit. Entre autres, aujourd'hui, c'était sur le cas l'habitation en copropriété. Donc, merci beaucoup, Maître Christian Roux. Vous êtes avocat au service juridique et corporatif de l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir.
c'est la semaine du défi sportif Altergo à Montréal. Donc, 5000 athlètes qui viennent de partout pour s'adonner à différentes compétitions, incluant ce sport, le Power Chair Soccer. Et pour en connaître davantage, savoir exactement quelles adaptations ont été faites à partir du soccer traditionnel, je joins au téléphone Mme Sarah Limoges, agente de développement chez Junisport. Bonjour, Mme Limoges.
Bonjour.
Donc, vraiment, d'où vient le Power Chair Soccer?
Le Power Chair Soccer, qui était initialement le Power Chair Football, a vu le jour la fin des années 70 en France. Et au début des années 80, la France et le Canada ont commencé à développer ce sport-là ensemble, qui est devenu le Power Soccer. Au Québec, ça a pris plusieurs années avant de voir le jour. C'est en 2008 que, grâce à des intervenants de l'école Joseph Charbonneau, ce sport-là il est arrivé au Québec et a vu son premier développement.
Donc, en 2008, ça fait à peine 8 ans et il y a quand même déjà un engouement pour le sport.
Oui, tout à fait. C'est un petit sport parce que c'est même après 8 ans, c'est encore du développement. Mais les membres qui sont depuis le tout début, les joueurs, les athlètes, c'est des passionnés. Donc, ils répandent la bonne nouvelle à leur façon et on voit le sport grandir là, au Québec, au Canada et ailleurs également.
Il est réservé exclusivement aux athlètes, aux joueurs en fauteuil motorisé?
Oui. Ce qui fait l'unicité de ce sport-là, c'est le seul sport d'équipe d'action réservé aux personnes qui ont un fauteuil roulant motorisé.
Et exactement comment ça fonctionne? Comment on peut visualiser, en fait, un match de Power Soccer?
Tout d'abord, notre équipement, on a un gros pare-choc, généralement en métal, qui est accroché en face de nos appuis-pieds, donc en face de nos pieds. Ça crée une grosse boîte de métal et c'est grâce à des vitesses de reculons et de rotation qui sont plus accélérées qu'on va frapper un gros ballon qui est plus gros qu'un ballon de soccer régulier.
Mm-hmm.
Et on est 4 par équipe en même temps sur le terrain, dont un gardien de but. Et le but, c'est grâce à nos rotations de frapper le ballon le plus rapidement possible pour le faire traverser du terrain et faire des buts.
Mm-hmm. Est-ce qu'il existe des règles internationales?
Oui, il existe ce qu'on appelle la FIFA, qui est... qui est l'organisation internationale qui régit ce sport-là, parce que c'est joué dans vraiment plusieurs pays. Donc, la Fédération internationale de Power Chair Football, que ça s'appelle, a rédigé des règles de base qui régit là, les compétitions internationales.
Mm-hmm. L'organisme Junisport, dont vous êtes l'agente de développement,
oui.
Il est entièrement dédié au Power Chair Soccer. Vous vous occupez d'une équipe, d'une ligue?
Junisport existe depuis 88, donc ça a beaucoup évolué dans sa mission, dans ses objectifs. Depuis quelques années, oui, on se dédie totalement au Power Chair Soccer. Parce que c'est ce que les membres veulent avoir dans l'organisme. Et on régit principalement toute l'activité du Power Chair Soccer dans la région de Montréal. Ça ne veut pas dire que nos membres ne viennent pas d'ailleurs, mais nos activités se régissent à Montréal et on a des clubs. On a un club plus élite, donc qui est des joueurs qui peuvent avoir accès, par exemple, à l'équipe provinciale ou nationale. Et on a aussi des équipes de développement, donc nous, nouveaux, qu'on apprend le sport.
Et quel âge ont vos joueurs? Est-ce que vous avez beaucoup de membres de vos clubs?
On a environ 14 membres réguliers qui reviennent à tous les années. Et on a vraiment perçu des membres de 6 ans jusqu'à 40 ans. Là. Donc, c'est vraiment... Premièrement, c'est un sport mixte. Donc, une équipe peut avoir autant de femmes que d'hommes. C'est sûr que certaines compétitions internationales demandent un âge minimal pour compétitionner, mais quand on est dans le développement, là, aussitôt qu'on est apte à manipuler son fauteuil roulant motorisé, on peut jouer.
À Ça vaut le détour, on a un segment chaque semaine qui est en route vers Rio pour les Jeux paralympiques. Est-ce que le Power Chair Soccer fait partie des paralympiques?
Pas encore. Un sport bien qu'il est pratiqué à travers le monde et qu'on a une fédération internationale, on est encore en train de travailler l'uniformisation de tous les règlements et de toute la pratique à travers toutes les provinces, les pays également, afin de présenter un dossier très solide aux Paralympiques et qu'un jour, ben c'est notre objectif que ça le devienne. Oui.
Il reste encore du travail à faire, mais cela dit, ce n'est pas les Paralympiques. Il y a toutefois le Power Chair Soccer au défi sportif cette semaine.
Tout à fait, qui va débuter dès ce vendredi 29 avril et va se poursuivre jusqu'à dimanche, le 1er mai, à l'école Joseph Charbonneau. On a vraiment la chance d'accueillir Vancouver, l'Uruguay, le Brésil ainsi que les États-Unis. Donc, on a vraiment des belles équipes internationales là, qui s'en viennent au défi cette semaine.
C'est une forme de Coupe du monde? Ou c'est juste une rencontre internationale?
C'est vraiment une rencontre internationale. Pour plusieurs équipes, le pointage qui va résulter en fin de semaine va compter dans leurs statistiques pour d'éventuelles compétitions internationales, dont la Coupe du monde qui va probablement avoir lieu en Floride, selon les dernières rumeurs.
Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment un sport qui est en développement.
Au Québec.
Au Québec, effectivement. On vous souhaite de très belles compétitions aux défis sportifs en fin de semaine.
Un très grand merci.
Et je l'ai dit, pour nos auditeurs qui voudraient savoir à quoi ressemble le Power Chair Soccer, on va mettre un lien vers une vidéo de Parasport Québec sur notre site web et sur notre page Facebook. Sarah Limoges, vous êtes agente de développement chez Junisport. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce sport aujourd'hui.
Un grand merci à vous. Bonjour.
Merci.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime Despomerlo.
Comme vous le savez, avril est le mois de l'autisme et cette année, la campagne de sensibilisation de la Fédération québécoise de l'autisme mettait l'accent sur l'employabilité des jeunes et des adultes vivant avec un TSA. Malheureusement, un emploi valorisant ne fait toujours pas partie de la réalité de plus de 500 000 Canadiens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et qui sont en âge de travailler. Pour changer les statistiques, il y a le programme Prêt, disponible et capable. Et je joins au téléphone la coordonnatrice provinciale pour l'autisme, Mme Emmanuelle Ladouceur. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que le programme Prêt, disponible et capable?
Alors, le programme Prêt, disponible et capable est une initiative financée par le gouvernement du Canada et qui est présent dans 20 villes, dans 20 différentes communautés au Canada, qui vise à accroître la participation des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sur le marché du travail. Et cette initiative est fait en partenariat national avec l'Association canadienne pour l'intégration communautaire et l'Alliance canadienne des troubles du spectre autistique, ainsi que leur organisation membre. Donc, au Québec, on est chapeauté par la Fédération québécoise de l'autisme et le Centre Gaulle.
Mm-hmm.
Et également la CIF pour les personnes, déficientes intellectuelles.
Oui, justement, ce que je voulais dire, c'est que la semaine prochaine, le 2 mai, on va s'entretenir avec Amélie Durand-Lot, coordonnatrice provinciale du programme pour le volet déficience intellectuelle. Aujourd'hui, on se concentre davantage justement sur les gens qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme.
Oui.
Vous, Emmanuelle Ladouceur, vous êtes coordonnatrice provinciale pour ce volet autisme. Quel est votre mandat exactement?
Alors, mon mandat, c'est de... c'est deux volets. C'est de répondre aux besoins de pénurie de main-d'œuvre des employeurs. Donc, c'est vraiment un programme très disponible et capable qui s'adresse aux employeurs pour leur faire découvrir une main-d'œuvre de talent, comme vous disiez en introduction, souvent inexploitée, des personnes autistes. Donc, mon mandat, à la différence de ma collègue, va être vraiment de démarcher des milieux de travail correspondants aux compétences et aux forces des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme.
Mm-hmm. Et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez sur le marché du travail?
Les principales difficultés, c'est souvent les conditions favorables pour le travailleur qui est autiste. Alors, par exemple, il peut avoir des compétences et des forces très recherchées. Et la façon que le travail est organisé va le mettre en situation d'handicap. Alors, c'est souvent avoir des discussions avec les employeurs pour voir quelles seraient les conditions favorables afin que ces compétences-là peuvent, fleurir ou vraiment s'épanouir. Alors, c'est souvent dans les conditions, l'arrimage des tâches, par exemple, l'environnement de travail qui est très imprévisible ou qui nécessite, par exemple, de s'adapter à plusieurs changements ou qui a beaucoup de pression, ça peut présenter pour certains travailleurs autistes des situations handicapantes. Alors, ça va être... C'est les difficultés principales.
Mm-hmm. Et c'est un programme qui s'adresse, comme on le disait, aux employeurs. Quels sont les principaux avantages pour un employeur d'embaucher un travailleur présentant un TSA?
En fait, pour moi, ce que j'ai observé, j'ai été conseillère à l'intégration pour les travailleurs autistes durant 5 ans dans une organisation de Montréal, Action Main-d'œuvre. Et ce que j'ai observé, c'est que le travailleur autiste les conditions favorables vont souvent demander à l'employeur d'être bien organisé, d'avoir une communication efficace, par exemple de planifier les changements, donc de réduire l'imprévisibilité, d'avoir un environnement de travail plus stable et justement plus prévisible. Donc, lorsque on a quelqu'un qui se joint à notre équipe qui est un travailleur autiste, ce que ça va faire dans les dynamiques de travail, c'est que ça va optimiser la façon que le travail est organisé. On va se mettre à communiquer plus précisément, mais ça a un effet bénéfique pour toute l'équipe de communiquer plus clairement. Ça a un effet plus bénéfique également pour toute l'équipe de planifier nos changements ou de les communiquer si on ne peut pas les planifier parce qu'on vit dans un monde imprévisible, mais d'avoir vraiment des pratiques de gestion qui sont très centrées sur la personne et aussi, très mobilisantes, hein, parce que les gens du milieu de travail doivent communiquer ce qui se passe.
Mm-hmm.
Alors, pour moi, c'est l'avantage que j'ai observé durant 5 ans et que j'observe encore.
Mm-hmm. Et auprès de quel type d'entreprise vous faites vos démarches? Est-ce qu'il y a secteurs d'activité qui sont plus ouverts que d'autres?
Plus ouvert, je vous dirais, peut-être que beaucoup de la publicité qui s'est passée avec SAP Spécialisterne a amené, je pense, en lumière les forces les compétences de certains travailleurs autistes. Qui avaient des forces en par exemple en technologie de l'information. Mm-hmm. Et également, c'est un marché où il y a une pénurie, hein? Donc la conjonction des deux. Donc je pense que certains employeurs vont m'approcher pour justement ce type de compétences-là. Toutefois, comme toute personne dans la population, les travailleurs autistes ont des compétences variées de tout genre, autant en art, en traduction, ça peut être comme journalier. Alors, c'est vraiment une étendue de compétences et de forces. Donc, moi, j'approche les employeurs, ça va être vraiment de tout secteur, en lien avec les bassins présentement de chercheurs d'emploi, parce que le programme vise à vraiment là, augmenter la présence de travailleurs autistes sur le marché du travail. Alors pour moi, je vais être en lien à ce moment-là. Je vais recenser un peu les compétences présentes de chercheurs d'emploi. Et après ça, je vais faire l'arrimage avec les employeurs que je vais rechercher selon certains, je vous dirais, certains, j'allais dire critères, mais bon, je vais regarder une entreprise qui est souple, je vais regarder un leadership qui est inclusif, je vais regarder s'il y a des politiques de diversité, si c'est une compagnie, par exemple, qui recherche une certaine, un type de compétences précises et que j'ai entendu ou que j'ai été en contact avec un travailleur que ce type de compétences-là. Alors là, c'est l'arrimage, je fais le mariage, je fais de manière variée.
Exactement. Vous êtes l'entremetteuse, vous êtes la marieuse, finalement, entre ces employés et ces employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre. Madame Ladouceur, comment ce programme prêt, disponible et capable se distingue par rapport à d'autres programmes d'employabilité?
En fait, ceux qui sont souvent présents, le soutien aux travailleurs, va être très, très centré sur le travailleur lui-même. Hein? Donc, on va lui donner, par exemple, du soutien avec son conseiller en emploi. Et à partir de là, on va trouver un employeur. Moi, c'est vraiment de répondre aux besoins de l'employeur dans un marché régulier de l'emploi. Mm-hmm. Donc, sans subvention salariale, mais plutôt, le programme va soutenir les conditions favorables pour que le travailleur puisse avoir le moins de situations handicapantes possible et que l'employeur soit soutenu dans ce processus-là pour que le mariage que vous mentionniez plus tôt soit de longue durée. Mm-hmm. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'on va, je vais partir du besoin de l'employeur pour dire, d'accord, qu'est-ce que vous cherchez comme compétences, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, c'est quelles sont les forces du travailleur que vous cherchez, en dehors du fait que le travailleur soit autiste ou non, c'est quel type de compétences vous cherchez. Et après ça, ça va être je vais aller dans les organismes de notre communauté, membres du ROSEP, donc les organismes d'employabilité qui se spécialisent pour une main-d'œuvre et qui ont comme bassin des travailleurs autistes. Et là, à partir de là, je vais leur faire part de l'offre d'emploi. Et eux, quand ils vont présenter un candidat, on va discuter des conditions favorables pour ce candidat-là. Donc, dans quel environnement de travail ce candidat-là va être en mesure d'optimiser son talent. Mm-hmm. Et là, ça va nous amener avec les conversations autour des accommodements, autour de la flexibilité, autour, par exemple, d'un soutien plus accru en début d'emploi. Donc, si la personne aurait besoin d'être bien, bien, bien soutenue pour l'apprentissage des tâches, par exemple, et que l'employeur n'a pas le temps, le programme va s'assurer d'offrir ce soutien-là par le biais du service d'employabilité ou de l'entreprise elle-même. Si l'employeur dit, ben moi, je pense que, étant donné que le métier est spécialisé, par exemple, un de mes employés pourrait offrir ce temps-là supplémentaire. Et nous, on va débourser les frais pour l'employeur à ce moment-là, puis assurer ce financement-là pour enlever tout obstacle possible à l'intégration de la personne.
Donc, c'est vraiment de mettre l'accent aussi sur les compétences et les talents des personnes, plutôt même que l'aspect autistique. En terminant, Madame Ladouceur, quelqu'un qui vit avec un TSA ou une entreprise souhaite participer à ce programme, où on s'informe?
Alors, pour l'entreprise, ils peuvent me contacter directement. Pour les personnes, les travailleurs autistes, ils peuvent contacter le service d'employabilité, membre du ROSEF de leur région. Et nous, à ce moment-là, on travaille en partenariat avec eux. S'ils ne connaissent pas le celui, c'est avec plaisir, ils peuvent nous contacter, me contacter au bureau au 514-345-8330, poste 123.
Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour nous parler de ce programme, en fait, de votre volet de l'autisme pour le programme prêt, disponible et capable qui est actif partout au Canada. Merci beaucoup de travailler à changer ces statistiques chez les personnes vivant avec un TSA sur le marché du travail.
Merci, c'est un plaisir et merci beaucoup. C'est un plaisir de faire ce travail-là et un privilège et merci de m'avoir accueilli.
Yeah. étages, j'ai des centaines de rêves de fous, sans repère et en détresse, de doute de tout, même de ton propre amour, va-t-il encore te laisser tomber, comme ils font tous tomber les filles, sans remords ni regrets, ils se foutent de tout, même de leur propre amour. Oh ma pauvre chérie, je sais parfaitement ce que tu vis, tu es là où j'étais, perdu seul souvenir. Oh ma pauvre chérie, je sais parfaitement ce que tu vis, tu es là où j'étais, perdu seul dans la vie. Si les cœurs blessés avaient cessé d'aimer, comment se porterait l'amour? Jusqu'au bout, va-t-il encore te laisser tomber? J'ai des centaines de rêves de fous, sans repère et en détresse, tu doutes de tout, même de ton propre amour, va-t-il encore te laisser tomber?
Ma pauvre chérie, une pièce de Mariem tirée de son tout nouvel album Jusqu'à l'aube. Elle sera en spectacle aux Francofolies de Montréal qui auront lieu du 9 au 18 juin prochain. Et c'est ce qui nous amène à notre segment culturel pour terminer l'émission À ça vaut le détour. Même si le nombre de locuteurs de la langue des signes québécoise, la LSQ, atteint 50 000 personnes, les sources sont souvent en retard sur la culture car leur offre culturelle est plus restreinte, particulièrement dans les spectacles performatifs, dans le théâtre, dans l'humour. Et par contre, on a des gens qui travaillent à rendre ces spectacles plus accessibles, ces spectacles interface qui présentent au grand public des spectacles adaptés en langue des signes québécoise. Le théâtre et l'humour sont donc plus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Et j'accueille en studio Martin Asselin, cofondateur de Spectacle Interface. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir.
D'abord, Spectacle Interface est né en 2009. Comment vous est venue l'idée de créer ça?
En fait, c'est les années juste avant 2009, on participait à type de bénévole à l'interprétation d'une pièce sur la rive sud de Montréal. Et c'est là un petit peu qu'on a comme goûté à ce que c'était du théâtre, parce que le métier d'interprétation, parce qu'à la base, on est des interprètes en langue des signes, nous amène un petit peu partout dans plein d'univers. Et justement, là, cet univers-là qu'on ne connaissait pas, le fait de s'y impliquer bénévolement, on y a goûté, puis là, on a vraiment aimé ça. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mon Dieu, il me semble que il y a tellement... Parce que là, c'était vraiment au niveau amateur. On s'est dit, bien, peut-être qu'au niveau professionnel, ça pourrait être possible de le faire. Et là, à un moment donné, bon, la collaboration s'est éteinte avec cet organisme-là. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit, ben, pourquoi pas? C'est peut-être le temps d'y aller au niveau professionnel.
De faire le saut, justement, parce que souvent, les initiatives de rendre la culture accessible sont cantonnées dans les spectacles amateurs. Mais vous, vous spécialisez dans les spectacles professionnels grand public.
Tout à fait. Puis c'est ça qui est plaisant aujourd'hui, parce que comme vous le disiez, là, ça fait 5, 6, 7 ans là, qu'on existe, et les maisons de production commencent à nous connaître, les artistes commencent à nous connaître. Donc le mot se passe dans les maisons de production. À partir du moment où on a fait un spectacle avec un artiste d'une maison de production, ça devient beaucoup plus facile de faire les approches au niveau des autres artistes. Et chose qui était vraiment très difficile au tout départ, parce que les premiers à nous avoir donné notre chance, c'est Jude Richard et Yvon Deschamps, là, que je connaissais pour avoir fait justement du bénévolat au niveau du chaînon lorsqu'on en était la porte-parole. Et là, il me dit, on s'était rencontrés par hasard quelque part, puis il me dit, bien, l'été prochain, moi, Yvon, Toulouse, on fait un spectacle à Joliette, let's go, là, c'est là que ça part ton affaire. Et bien, c'est ça. À partir de ce moment-là, il y a eu des... puis on a pu réserver la section avant de la salle puisque les billets n'avaient pas été mis en vente encore.
Mm-hmm.
Et c'est là que le tout a commencé. Là. C'est de se dire okay, comment on va s'appeler. Puis là, dans la communauté sourde, chaque organisme a son propre signe. Donc, inventer un signe qui nous définirait là, au niveau de la langue des signes. Et c'est là que ça a commencé.
Quand même, commencer avec Yvon Deschamps, Judy Richards, c'est du gros calibre tout de suite.
On était bien heureux, justement, parce qu'on avait le droit de capter les images. Puis ça a été nos premières images à montrer à d'autres producteurs pour leur dire, regardez, là, Yvon Deschamps, Judy nous ont fait confiance. Oser. L'artiste semble vouloir. C'est sûr que là, au niveau des fois des agents des maisons de production, au tout début, là, il y avait plus de réticence. Mais là, je pense que de fil en aiguille, là, ça va beaucoup mieux. Puis même, il y a une maison de production, pour ne pas la nommer, Faneuf, qui, la dame avec qui je fais affaire, m'appelle et m'a dit hey, « il y a peut-être deux, trois artistes, d'après moi, qui seraient willing pour le faire. Puis il y en a un, justement, qui est en rodage. » Fait que là, ça commence à être le fun. Là. C'est ça. On en est rendu là.
Oui, c'est un bon défi. Justement, quelles étaient les résistances que vous rencontriez au début et qui semblent s'estomper maintenant?
C'est vraiment le oui, parce que je vous mentirais pas qu'il y a encore des artistes qu'on approche qui nous disent oui, mais bon, là, tu te rends compte que non, ça sera pas possible et tout ça. Puis je pense que, ben en fait, tout ça, ça aboutit pas.
Mm-hmm.
Alors, je pense qu'il y a des réticences parce que, bon, ça, pour l'avoir vécu, quelquefois, par exemple, on fait une pièce de théâtre, donc ce sont deux comédiens. Il y en a un qui est vraiment super willing, l'autre qui est comme un petit peu plus... se demande si ça ne sera pas distrait parce que le fait de voir des signes, parce qu'on est quand même assez collé sur les personnages sur scène. Je pense qu'ils ont un peu d'appréhension, les artistes. Mais le plus gros, je dirais, là, de la problématique vient au niveau des maisons de production. Sauf que, comme je vous dis, là, on est rendu à 4-5 maisons de production avec qui on a travaillé depuis ces dernières années. Fait que ça commence à aller assez bien de ce côté-là.
Et est-ce que vous produisez vous-même les spectacles que vous adaptez? Vous avez du soutien d'autres types de boîtes de production?
En fait, c'est ça. Comment on fonctionne? Nous, on achète vraiment le spectacle. C'est comme ils considèrent comme étant un corpo. Là.
Mm-hmm.
C'est la terminologie utilisée dans le milieu. Donc, on achète le spectacle et on s'occupe vraiment de tout le reste. Là, tout le reste. Et là, il y a peut-être une petite nouveauté dans les dernières années. On a... parce qu'au tout début, quelquefois, lorsqu'on parlait de personnages ou des choses un petit peu plus crunchy, qui sont un petit peu plus longues à interpréter, puis comme là, c'est un spectacle puis que ça doit rouler, on avait des images qu'on imprimait ou on avait des petites pancartes sur lesquelles il était écrit des petites choses. Puis là, on s'est dit, bien, non, là, il faut passer à autre chose. Donc là, on loue des téléviseurs 65 pouces qui sont sur scène, donc qui sont ajoutés à ce qui est le spectacle original. Et on a de monter dans un PowerPoint des images pré-setées. Alors, c'est sûr qu'il y a quelqu'un au niveau de la console qui fait apparaître les images en fonction d'où est rendu l'artiste là, dans son numéro. Et là, moi, je n'ai qu'à faire un pointé au niveau de l'écran pour faire comprendre au public sourd qui est dans la salle donc, qu'on parle de ce personnage-là.
Mm-hmm.
Et vraiment, là, ça roule. Là, vraiment, c'est une nouveauté que le public vraiment apprécie beaucoup.
Oui, parce que là, il faut le dire, c'est du live. Ça roule. Là,
oui,
quand,
tout à fait,
surtout
tout à fait.
Dans des shows d'humour, quand on est habitué... en bon français, au delivery de l'humoriste, donc à son rythme. Parfois, c'est une heure de spectacle seul devant public.
C'est ça.
Puis vous, vous êtes à côté à interpréter. Comment ça se passe, ce travail-là? Rencontrez-vous l'artiste avant pour qu'il s'habitue à avoir quelqu'un à côté de lui?
Pas tout à fait. En fait, nous, on a filmé le spectacle à peu près un an avant de le présenter à un public sourd. On l'a regardé au moins une cinquantaine de fois. Alors, on connaît tous les punchs, on connaît tous les mouvements. Puis peut-être 2 à 3 mois avant le spectacle, on va le voir en salle, dans d'autres salles. Parce qu'en fonction de l'actualité, quelquefois, il y a des petites choses qui changent dans le spectacle. Alors, si on les prend en note, on vérifie auprès de... la journée même auprès de l'artiste, là, savoir si tel numéro, là, tu as changé tel mot il y a 6 mois qui est utilisé pour un autre mot aujourd'hui, justement en fonction de l'actualité. Mais le gros, là, c'est vraiment nous qui faisons la préparation, là. Puis culturellement aussi, il y a des petites choses qu'on doit adapter dans une présentation. Là, par exemple, si on parle d'un personnage super populaire, mais que nous, on sait que dans la communauté, il n'est pas populaire. Là, on va essayer de trouver une autre image qui fait en sorte que l'objectif de la blague est vraiment la même, sauf qu'on a changé, nous. Puis ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'on a beaucoup d'amis interprètes qui sont dans le milieu, donc qui, eux, entendent la blague de l'humoriste, mais nous l'avons interprétée, cette blague-là, et ils font « OK, on a vu la petite adaptation culturelle que vous avez faite, puis c'était vraiment chouette. »
Justement, on dit souvent que la LSQ est une langue en soi. Est-ce qu'il y a des choses ou des concepts qui sont plus difficiles à transmettre ou à traduire?
Oui, c'est ça, parce que ce ne sont pas tous les spectacles qui sont interprétables et présentables, parce qu'il y a des types d'humour où on joue sur les mots, par exemple... André Sauvé, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les mots. C'est pas le genre de spectacle qu'on pourrait faire parce que le mot, par exemple, s'il y a un homonyme, par exemple, en 2 mots, mais qui font référence à 2 choses complètement différentes, mais ces 2 mots-là, au niveau de la manière de le signer, c'est pas vraiment la même chose. Donc, c'est pas des homonymes signés, bien qu'il existe des homonymes signés en langue des signes. Donc, c'est ça. Quand ça arrive trop souvent dans un spectacle... là, on dénature le spectacle, donc on ne serait pas en mesure de bien rendre justice là, au public sourd, ce qu'est vraiment là, cette pièce de théâtre-là ou ce numéro d'humour-là. Donc, on n'est pas en mesure de pouvoir le présenter.
Tout à fait, et à la fois de dénaturer aussi le travail de l'artiste. Donc, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir rendre accessible le travail de l'artiste et non pas de créer quelque chose de nouveau sur scène. Et quels sont, justement, est-ce qu'il y a d'autres critères? Est-ce que le nombre de personnages, par exemple, sur scène devient un enjeu?
On essaie de se limiter effectivement à quelques personnages parce qu'on doit comprendre qu'on double le nombre de personnes sur scène. Donc, si c'est une pièce de théâtre où les comédiens sont au nombre de 3, il y a 3 interprètes sur scène. Puisqu'on représente chacun un personnage, on est habillé vraiment comme notre personnage. Si notre personnage a de la barbe, on
même
a un
costume.
Petit peu de barbe. Oui, même costume, tout à fait. Puis, quelquefois, ça, c'est anodin, mais c'est le genre de choses quand on... la plupart des artistes ont un double de leur costume parce que, bon, ils prévoient une tournée assez longue. Sauf que vous comprendrez que quand je fais Philippe Laprise, on n'a pas tout à fait la même shape. Là, je m'excuse, Philippe, mais t'as maigri récemment, c'est très, très bien.
Mais
tout de même, c'est ça. Donc, tu dois faire des recherches au niveau de l'habillement pour essayer de retrouver une chemise qui correspond pas mal à celle que l'humoriste... met sur son dos. Et donc, c'est ça. Effectivement, oui, on s'habille comme eux. Puis c'est vraiment super chouette parce que plus ça va, plus les artistes avaient entendu parler de nous. Puis il y a des collaborations qui s'établissent sur scène. Donc, quand il va parler de telle blague, il me regarde puis il me voit faire cette blague-là qui la manière... Quand on l'a fait en langue des signes, c'est vraiment super cocasse parce que le mouvement est très, très drôle. Donc, là, l'artiste embarque puis là, il y a... on décroche complètement de son texte à lui pour jouer un petit peu sur ce que je suis en train de faire en langue des signes. Puis ça fait vraiment rire le public.
C'est vraiment intéressant. Il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on parle de votre prochaine production qui va être présentée en juin, le spectacle « Maudit job » avec François Chénier et Mathieu Graton.
Oui, donc c'est ça, deux comédiens, en fait 2 employés d'une entreprise de télécommunication au niveau du service à la clientèle. Donc c'est ça, comme je vous disais, dans le fond ils sont 2, le fait que ce soit 2, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et c'est ça, c'est le 11 juin au Collège Annecyc à 19h30 là, qu'on présente ce spectacle-là. On en présente des spectacles environ 2 par année, donc ça c'est celui qu'on présente au début de l'été. Et on n'est pas fixé encore là, pour un spectacle cet automne, mais on y travaille très fort. On en a 2-3 en préparation, 2-3 humoristes et comédiens qui sont intéressés à travailler avec nous.
Et est-ce qu'il faut avoir un talent, votre bagage est davantage celui d'un interprète, est-ce qu'il faut avoir un talent pour des expressions en théâtre ou est-ce qu'il faut comprendre ce contexte de mise en scène, de scénographie?
Oui, c'est sûr. Le plus gros de la compétence doit être au niveau de ta compréhension de la langue des signes, de comment tu possèdes la langue des signes. Mais effectivement, là, il y a une grosse partie qui fait en sorte que c'est drôle sur scène parce que tu as une mimique, une gestuelle vraiment artistique et théâtrale qui mm-hmm. fait que tu comprends très bien le sens de ce qui est dit oralement. Donc, tu dois vraiment le passer d'une façon gestuelle et expressive au public pour qu'il puisse comprendre vraiment la blague comme elle est dite au niveau oral.
Ça nous donne vraiment envie de voir ces spectacles. Spectacles Interface, j'accueillais Martin Asselin, cofondateur, compagnie que vous avez cofondée avec Joël Fortin.
Tout à fait.
Elle n'est pas là aujourd'hui, mais on la salue. Merci beaucoup et juste le temps de dire que nous ferons tirer une paire de billets pour la représentation du 11 juin. Vous pouvez commenter sur la publication Facebook d'aujourd'hui sur la pièce de théâtre ou manifester votre intérêt par courriel à canalm@vuesetvoix.com. Merci, Martin Asselin.
Merci à vous.
Je remercie mes invités qui étaient avec nous aujourd'hui, Maître Christian Roux, Sarah Limoges, Emmanuel Ladouceur et Martin Asselin. Je remercie aussi mon équipe technique, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, recherche et médias sociaux, Christiane Campagna. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.